Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Pascal Masirika.
À la une ce midi, 19 morts et 11 disparus, bilan d'un naufrage survenu sur le lac Tanganyika au sud Kivu mardi soir. L'embarcation venait d'Uvira pour Baraka en territoire voisin de Fizi avec à bord des passagers et des marchandises. Les députés révolutionnaires et du PPRD Mosaïque, membres de l'Union sacrée de la nation, soutiennent l'état de siège décrété au Nord Kivu et en Ituri. Ils soutiennent également le président Félix Tshisekedi et le prix Nobel Denis Mukwege. Notre invité ce midi, c'est le président des boutiquiers de Goma. Akembo Amnassi parle de la reprise des activités commerciales dans cette ville deux semaines après l'éruption du volcan Nyiragongo, alors que la zone rouge est toujours en vigueur. Madame, Messieurs, bonjour. Près de 20 personnes disparues et une dizaine d'autres rescapées. Bilan d'un naufrage survenu sur le lac Tanganyika en territoire d'Uvira au sud Kivu dans la nuit de mardi à ce mercredi. Il s'agit d'une embarcation qui venait d'Uvira pour Baraka en territoire voisin de Fizi avec des passagers et des marchandises. L'administrateur du territoire d'Uvira indique que les recherches sont en cours. Le commissaire maritime du port de Kalundu à Uvira explique les circonstances de cet accident. James Amani Mungazi a été joint par Emmanuel Elamediou Kabedi.
Le naufrage a eu lieu la nuit du 1er au 2. Les bottes étaient en train de charger au port de Kasenga chez Olga House. Après le chargement, nos agents ont constaté qu'il y avait déjà surcharge. Ils ont ordonné le déchargement de plus de 5 tonnes de marchandises parce que les bottes étaient de 25 tonnes. On a déchargé une très grande quantité pour permettre aux passagers de naviguer en toute sécurité. Et dans les bottes, on y avait embarqué 12 passagers, parmi lesquels 2 militaires de FRDC. À destination de Baraka. Maintenant, le propriétaire de bottes n'a pas été content parce qu'on a débarqué une partie de sa charge. Il a encore chargé cette marchandise dans un camion de marque Fuso pour précéder les bottes à un endroit qu'on appelle Katongo. Il a encore rechargé la même marchandise que nous on a refusé dans son bot. Il aurait même ajouté d'autres passagers parce que les bottes a connu un problème de surcharge et il a commencé à embarquer l'eau. Et plus que l'eau entrait, ça faisait sombrer les bottes. On a pu sauver 11 passagers, parmi lesquels les deux militaires là, qui malheureusement ont perdu leurs armes.
Notez que si toutes les sources reconnaissent que 11 personnes sont rescapées, un mystère persiste cependant sur le nombre de disparus. Le propriétaire de l'embarcation est en fuite. Au Nord Kivu, 6 sénateurs promettent de s'assurer d'une bonne gestion de la situation post-éruption du volcan Nyiragongo et de l'amélioration des conditions de vie des sinistrés. Assurance faite ce jeudi à Radio Kapi par un membre de cette délégation à la fin d'une mission au cours de laquelle ils ont assisté les déplacés dans différents sites. À Goma, Bernard Nyangi.
Arrivée dimanche à Goma, la délégation des 6 sénateurs conduite par Pierre Kabanda s'est entretenue avec les scientifiques de l'OVG, les autorités provinciales et la communauté humanitaire pour cerner la problématique liée à l'éruption du volcan Nyiragongo du 22 mai dernier. Ils ont par la suite visité les sites ensevelis par la lave avant de faire une tournée dans les territoires de Nyiragongo, Rutshuru et Masisi. Sur le terrain, ils ont remis une dizaine de milliers de kits d'ustensiles de cuisine et pris en charge les coûts de réhabilitation des infrastructures locales d'approvisionnement d'eau potable. Mais l'essentiel, c'est de s'assurer que la pré-éruption est bien gérée, dit l'un d'eux, le sénateur Jean Baumbili Akisolomi.
Après l'éruption volcanique, le Sénat s'est décidé d'envoyer d'urgence un groupe de sénateurs en mission. Vu les besoins qui étaient sur place, le Sénat s'est engagé de débourser les fonds nécessaires pour carrément rétablir l'eau à sac. Il fallait trouver aussi une solution pour que les déplacés aient des seaux ou bien des bidons pour pouvoir eux-mêmes puiser l'eau. Mais la mission de la délégation réellement, c'était venir s'enquérir de ce qui se passe réellement sur le terrain et puis faire des plaidoyers.
Rappelons que la tournée des 6 sénateurs pour survoler le cratère du volcan Nyiragongo et visiter les déplacés à Rutshuru a été facilité par la MONUSCO. Goma,
Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Nord Kivu encore, la société civile de la commune de Kanyabayonga tire la sonnette d'alarme sur les manques d'eau potable dans cette région du territoire de Lubero qui accueille les déplacés qui ont fui l'éruption volcanique de Nyiragongo. Cette structure citoyenne appelle le gouvernement central et les humanitaires à trouver une solution au plus vite. Reportage à Boutembo de Grâce à Mzati.
Kanyabayonga est confronté depuis très longtemps déjà à un sérieux problème d'eau potable, rapporte des sources sur place ainsi que de la société civile. De ces faits, les déplacés tant de guerre que du volcan Nyiragongo éprouvent d'énormes difficultés pour se ravitailler en eau. Ils doivent parcourir des kilomètres notamment à Kasehe, Kirumba ou encore Kaina pour avoir de l'eau. La société civile craint que ces personnes déplacées ne soient encore confrontées à des maladies hydriques et appelle à l'intervention du gouvernement et des humanitaires. Daniel Sengemoja est son président.
La commune qui vit vraiment une vie misérable en rapport avec l'eau potable, c'est la commune de Kanyabayonga. Alors, pour qu'on arrive à trouver une eau potable, il faudra que le gouverneur, ou soit l'administrateur, soit le président de la République, puisse voir quel est le volontaire, quel est l'humanitaire qui peut vraiment accepter à songer les vies humaines se retrouver dans la commune de Kanyabayonga. Il nous achète des tuyaux, nous on tire l'eau de café jusqu'à Kanyabayonga.
Le bourgmestre de Kanyabayonga Fatih Chrysostome plaide auprès des ONG pour une aide afin d'éviter une autre catastrophe dans la région. Jusqu'à ce mercredi, la commune de Kanyabayonga a enregistré 1885 ménages de déplacés venus de Goma, sans compter ceux qui fuient les atrocités des groupes armés, affirme cette autorité communale. Boutembo, Grâce à Mzati, Radio Kapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, à deux jours de l'expiration constitutionnelle de l'état de siège, les députés révolutionnaires et du PPRD Mosaïque, membres de l'Union sacrée de la nation, réitèrent leur soutien à cette mesure visant à restaurer la paix à l'est de la RDC. Dans une déclaration faite hier mercredi à Kinshasa, ils ont dressé un tableau sombre de la situation sécuritaire aggravée par l'éruption du volcan Nyiragongo. Bien plus, ils soutiennent le président Félix Tshisekedi Tshilombo et le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Le compte-rendu de Michel Kifindangoy.
Dans leur déclaration, plus d'une centaine de députés dits révolutionnaires de l'Union sacrée de la nation ont exprimé leur indéfectible soutien à la mesure de l'état de siège prise par le chef de l'État dans le Nord Kivu et l'Ituri. Dédé Kodoro.
Ayant suivi avec humiliation les propos indélicats tenus par le président du Rwanda, banalisant les génocides congolais et les sacrifices consentis par le docteur Denis Mukwege, la République démocratique du Congo est fière de son digne fils.
Dans la même démarche, plus d'une centaine de députés du PPRD dit Mosaïque au sein de l'Union sacrée ont également exprimé leur compassion à l'ensemble de la population de l'Est et à toutes les familles victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Jean-Charles Okoto.
Nous réaffirmons notre soutien total à l'état de siège décrété par le chef de l'État et au phare d'essai en vue de mettre fin aux tueries perpétuelles dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu.
Juste après ces deux déclarations, une plénière à huis clos a eu lieu à l'Assemblée nationale afin d'examiner le réquisitoire du procureur demandant la levée des immunités des deux députés ainsi que l'examen de la demande de l'interpellation d'un membre du gouvernement.
Merci Michel Kifindangoy pour ces précisions. Et puis, les violences sexuelles faites aux femmes et les massacres se poursuivent en RDC. Face à cette situation, l'implication de l'État congolais reste faible pour protéger les victimes. C'est ce qu'a affirmé hier mercredi à Bukavu le docteur Denis Mukwege au cours d'une journée parlementaire avec les députés provinciaux du Sud Kivu. Le prix Nobel de la paix a parlé également de l'évolution de l'État, des violences sexuelles, le niveau d'intervention sur les victimes et l'implication du gouvernement congolais dans cette lutte. Des précisions avec le rapporteur de cet organe délibérant, Jack Kamanda Amani, au micro de Denise Lukeso.
Nous avons vu avec la présentation du prix Nobel les niveaux de gravité des violences sexuelles que nous enregistrons chaque jour au site Kivu, au pays et à l'Assemblée provinciale. Nous avons constaté franchement une faible implication de l'État congolais et qu'il serait important que l'État congolais capitalise les interventions du prix Nobel de la paix par rapport aux victimes, par rapport aux femmes qui deviennent de plus en plus victimes. Sur la base de sa présentation, il y a vraiment un problème de l'engagement de l'État congolais pour sécuriser les peuples, pour lutter contre les violences violences faites aux femmes. Nous pensons que l'État doit encore prendre un engagement ferme pour sécuriser les femmes afin qu'elles ne soient plus exposées aux violences sexuelles. Et l'État doit prendre un engagement pour remettre chacun dans son droit. Il y a eu des massacres partout en RDC et nous avons besoin que l'État prenne un engagement pour aider et remettre chaque Congolais victime de tous ces massacres dans ses droits.
Le docteur Denis Mukwege est revenu également sur le rapport mapping qui, jusqu'ici, n'est toujours pas présenté. Il a encore plaidé pour la mise en place d'un tribunal mixte en RDC pour juger les responsables de ces crimes. Trois jours de retraite judiciaire débutés hier mercredi par visioconférence à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La RDC y a été représentée par la ministre d'État de la Justice. Au nom du chef de l'État, au nom du président de l'Union africaine et président de la RDC, Madame Rose Mutombo a noté la nécessité de réformer les institutions de l'Union africaine, notamment le système des droits de l'homme de la Cour, fustigeant par la même occasion les procédures devant la Cour pénale internationale. Elle a plaidé pour une Cour africaine indépendante capable de juger les Africains sous les continents comme solution alternative au retrait des pays africains de la Cour pénale internationale. Ces propos ont été recueillis par Jeff Ngoy.
Au cours de vos délibérations, vous devriez examiner de manière critique l'ensemble de l'architecture africaine des droits de l'homme, les différentes institutions des droits de l'homme et les institutions connexes et formuler des recommandations concrètes sur la manière d'améliorer le système africain des droits de l'homme. Les États, tout comme les requérants, ont le droit de ne pas être d'accord avec les décisions de n'importe quelle cour. Oui, nous désapprouvons la procédure devant la Cour pénale internationale. Nous désapprouvons les poursuites injustifiées et partielles engagées à la haie contre les Africains uniquement. Mais il ne suffit pas de critiquer la CPI ou de s'en retirer. Nous devons proposer une alternative à la CPI. Et à mon avis, cette alternative prend la forme d'une Cour africaine indépendante.
Notez que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est une juridiction continentale établie pour assurer la protection des droits de l'homme et des peuples en Afrique. Elle complète et renforce en même temps les fonctions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. La RDC en fait partie conformément à sa volonté de promouvoir l'état de droit et la démocratie. Qu'est-ce que l'on peut retenir à l'actif de cette Cour tentative de réponse avec vous, Jeff Ngoy?
L'évolution des événements de ces dernières années concernant la Cour africaine à celle d'autres juridictions régionales montre que la Cour a enregistré un grand succès. La ministre d'État et ministre de la Justice congolaise l'a reconnu. En termes de chiffres, en mai 2021, la Cour a reçu plus de 323 requêtes en matière de contentieux et a rendu 113 décisions et plus de 67 ordonnances portant mesures provisoires. 210 affaires sont pendantes devant elle. Elle a reçu 14 demandes d'avis consultatifs en avis des 13 et une pendante. L'accès à la Cour a été amélioré et elle a continué à collaborer avec les États membres et les organisations de la société civile, notamment par le biais de visites de la sensibilisation régulière. En dépit de ces tableaux reluisants des activités de la Cour, celle-ci semble toujours confrontée à de nombreux défis pour s'acquitter efficacement de son mandat. Selon Rose Mutombo, aujourd'hui, plus de deux décennies après l'adoption de son protocole, seuls 55 États membres de l'Union africaine l'ont ratifié. Et la RDC est devenue partie à la suite du dépôt le 8 décembre 2020 de l'instrument irrelatif.
Autre nouvelle en plus bref, dans les provinces de l'Équateur et de la Chuapa, plus de 12 000 enfants de 6 à 11 ans vont bientôt suivre des enseignements à distance par la radio. Ce programme a été lancé hier mercredi simultanément à Mbandaka et à Boende. Ce programme sera piloté par l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement, une ONG partenaire d'exécution de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour la protection de l'enfance, avec le financement du PME. Mais le projet de 9 mois vise notamment à compléter les vides causés par l'état d'urgence sanitaire lié au coronavirus.
Actualité internationale.
Au Tchad, les visites officielles se succèdent pour le nouvel homme fort du pays après le Niger et le Nigeria. Il y a quelques jours, Mahamat Idriss Déby, président du conseil militaire de transition, a séjourné hier mercredi à Luanda, dans la capitale angolaise. Il a échangé avec le président João Lourenço. Cette visite officielle est placée sous le signe de l'amitié et de la continuité. Pour mémoire, les deux pays, c'est-à-dire le Tchad et l'Angola, entretiennent d'excellents rapports depuis de lustres.
L'invité.
Notre invité, c'est le président de l'association des boutiquiers de Goma. Kembo Amnassi parle de la reprise des activités commerciales dans cette ville, deux semaines après l'éruption du volcan Nyiragongo, alors que la zone rouge est toujours en vigueur. Il s'entretient avec Bernard Denyangui.
Monsieur Kembo Amnassi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Je vois que vous avez ouvert et c'est presque l'ensemble des boutiques à Birere qui sont ouvertes en ce moment. D'abord, pour commencer, pourquoi vous avez ouvert pendant que la mesure de ne pas vivre dans cette zone est toujours en vigueur?
Vous savez que la plupart des opérateurs économiques de la ville de Goma travaillent avec des crédits des banques. Alors, lorsqu'il y avait l'éruption du volcan Nyiragongo, c'est tout le monde qui a pris chacun sa direction. Mais ils ont compris que malgré ça, comme il y a la calmie au niveau de la ville de Goma, il faudrait qu'on puisse y rentrer. Parce qu'ils travaillent avec les crédits des banques. La banque ne peut pas dire non, il y avait l'éruption volcanique. Par conséquent, dans ces mois ici, on va vous ignorer, on va vous exempter les remboursements de ces dettes-là. En plus de cela, il y a aussi d'autres opérateurs économiques qui reçoivent des marchandises à travers des tierces personnes. Comme ils ont compris que non, dans la ville de Goma, il y a la calmie. Il faudrait qu'ils puissent venir vendre ces marchandises afin de garder l'argent pour payer la tierce personne qui lui avait fourni cette marchandise. Que c'était une chance de dire non, comme je n'étais pas victime du volcan dans ma boutique, dans mon entreprise, c'est l'occasion maintenant d'aller vider toutes les marchandises afin de payer la créance des différentes personnes à qui ils sont des fournisseurs auprès de ces opérateurs économiques-là.
Donc, si je comprends bien, ce n'est pas une mesure pour défier l'autorité.
Non, mais ce n'est pas ça. Hein? Vous voyez, la première personne à avoir la crainte, par exemple, de l'éruption volcanique ou bien la guerre, c'est les opérateurs économiques. Et ce sont ceux qui sont toujours victimes de pillages, par exemple. Alors je dis, pour le moment, comme il y a la calmie, on peut rentrer rapidement et on essaie de vendre rapidement la marchandise pour essayer de payer aussi les débiteurs, les fournisseurs qui avaient fourni la marchandise auprès de ces opérateurs économiques. Et d'autres choses, il y a la banque aussi. La banque, depuis que nous sommes ici à Goma, même les volcans de 2002, tout opérateur économique qui avait pris la créance au niveau de la banque, donc il n'avait jamais eu l'occasion, la chance d'être exempté la période là où les volcans étaient déjà en activité. Ils ont dit, non, vous devez payer toujours les pénalités parce qu'il y avait les paiements de retard suite à cette éruption volcanique là. Alors, on devrait payer et les pénalités et tout ça. Et ils ont compris que non. Si nous osons rester là où nous sommes, nous allons subir aussi les chocs de pénalités au niveau de la banque.
Le volcan est passé, la population a été évacuée même dans cette zone ici et relocalisée peut-être vers Sac. Mais pendant ce temps-là et pendant l'éruption, est-ce qu'il y avait quelques cas, par exemple, de certains opérateurs économiques qui avaient été affectés autrement?
Exactement, c'est ça. Parce qu'il y a des opérateurs économiques qui est vrai au niveau de là où on appelle Turungala. Hein? Il y avait quelques opérateurs économiques, même il y avait un opérateur économique qui avait son entreprise de production de vin. Cette entreprise a été calcinée. Et avec des petites boutiques là-bas, des petites kiosques là-bas, tout ça a été calciné. Donc s'ils continuent de rester là-bas, là où ils sont partis, il faudrait qu'ils puissent revenir dans la ville de Goma et comprendre comment est-ce qu'ils peuvent s'installer encore dans la ville de Goma.
Dans la partie qui a été ensevelie par la lave, est-ce qu'il y avait quelques opérateurs économiques qui avaient des maisons là-bas?
Tout à fait. Donc, il y a des personnes qui résidaient là-bas, mais leurs activités se trouvent ici au Birere. Donc, c'est l'habitation qui est partie avec la lave. Mais voilà, il va se contenter de ça. Il va essayer de se délocaliser quelque part pour continuer ses activités. Par exemple, de tels cas. Et s'il a échappé donc dans ses activités commerciales au niveau de Turunga là-bas, mais il devrait revenir plus rapidement pour qu'il puisse continuer à faire ses activités, de chercher quelque part là où il peut se loger, louer une maison d'habitation pour qu'il puisse continuer à survivre. C'est ça.
Maintenant, je vois que c'est presque toutes les boutiques qui sont ouvertes dans le centre de Birere. Les affaires marchent comment? Est-ce que la clientèle reste toujours dans le statu quo ou bien il y a une diminution par rapport à l'avant-volcan?
En tout cas, l'activité tourne à ralenti.
parce que beaucoup de gens ne passent encore à rentrer. Et si vous voyez, vous sortez de la ville, vous allez voir, il y a quelques personnes qui ne sont pas encore rentrées, quelques portes qui sont toujours fermées. Donc les activités tournent à ralenti. Mais au fur et à mesure que les gens qui sont déjà arrivés à Butembo, à Beni, d'autres à Ouvira, tout ça, dès qu'ils vont comprendre que non, la situation est un peu calme, je pense qu'ils vont revenir.
Dans le camp des opérateurs économiques, il y en a ceux qui, eux aussi, ne sont pas encore rentrés dans la ville.
Tout à fait, il faut rentrer aussi, petit à petit.
Monsieur Kembo Mnassi, merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
C'était l'invité de Radio Okapi, le président de l'association des boutiquiers de la ville de Goma au Nord Kivu. Kembo Amnassi était interviewé par Bernard Nyangi. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. À Kinshasa, il est 12h20. Merci à Élisée Chikota Mwamboui et Alain Irung Mouchige qui m'ont accompagné. Retrouvez ce journal sur les différentes plateformes numériques de Radio Okapi dans un court instant, la page des sports.